C'est par où demain? C'est par où demain? C'est par où demain?
C'est par où demain? C'est par où?
Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit mollo sur le destroy.
C'est par où demain?
L'émission qui fait du bien. Surtout aux éco-anxieux.
Vous êtes sur Radioactive dans l'émission C'est par où demain? Une émission proposée par Extinction Rebellion, Saint-Brieuc. Dans cette émission, on explore avec vous les différentes limites planétaires qui analysent l'habitabilité de la Terre par l'espèce humaine. Nous tentons d'analyser les tenants et les aboutissants en allant à la rencontre des costa-américains et costa-américaines qui œuvrent au quotidien pour une société plus durable et enviable.
Ouais, bravo! Merci à toi, Brioche!
De rien, Dune.
Bonjour à tous!
Salut! Donc on a eu une super introduction par un nouveau membre de notre équipe.
Bonjour à tous, moi c'est Brioche.
Salut,
salut Brioche. Donc on est avec June.
Oui, salut.
Avec l'Albi.
Salut.
Et avec moi, Popote.
Salut, salut Popote. Popote. Ceux qui n'en finissent jamais, salut.
Et donc aujourd'hui, on introduit un nouveau sujet.
En fait, on est un peu sur la suite du même thème, sur un autre pan du changement d'usage des sols. Dans les épisodes précédents, nous avons vu un pan du changement d'usage des sols avec l'artificialisation, c'est-à-dire la bétonisation, l'urbanisme et l'habitat individuel. Et on avait fait la lumière sur ce qui nous paraît être une des solutions pour un avenir meilleur, à savoir l'habitat partagé. Donc on avait rendu visite au Moulin et à Hénambie-1. Et aujourd'hui, on va voir un autre pan, l'effet papillon du progrès. Et voilà, un petit peu, en fait, on va parler des mines de l'extraction nécessaire pour les différents matériaux dont on a besoin aujourd'hui. On a été, il y a quelques semaines, rendre visite à Glomel, à un collectif qui lutte contre l'extension d'une mine pour l'andalousite. Il y a un projet d'une quatrième fosse. Et l'Albi, on était ensemble, si tu veux prendre la suite.
Et avant de laisser la parole aux personnes qu'on a été interrogées, peut-être qu'on peut présenter succinctement un peu l'andalousite, ce que c'est, parce que c'est vrai que, en fait, avant d'entendre parler de cette lutte-là, moi personnellement, je savais pas du tout ce que c'était l'andalousite et ni quels étaient les usages.
Ouais.
Je crois que Popote, toi, t'as fait quelques petites recherches
sur
l'andalousite.
Et oui, en gros, l'andalousite, c'est un minerai. Qui appartient à la famille des silicates d'alumine anhydride. Il est majoritairement utilisé dans la fabrication de revêtements réfractaires, donc qui sont notamment utilisés dans l'industrie, particulièrement la métallurgie et la sidérurgie. Donc, la fabrication de métaux ou d'acier.
Tout ce qui est verrerie et armement aussi.
C'est ça.
Ah oui, t'allais en parler, pardon.
En gros, les principaux usages des silicates d'aluminium, donc qui contiennent l'andalousite, en 2020, ils sont majoritairement utilisés pour la synthèse de mullite pour l'industrie des réfractaires, les briques et pâtes réfractaires, briques crues ou briques cuites, le garnissage des hauts fourneaux, donc là c'est pour la sidérurgie, les fours de cimenterie, les fours de verrerie, la gazetterie pour la céramique et les moules de fonderie. Et donc en gros tous les secteurs, c'est la sidérurgie, la scierie, la cimenterie, la verrerie, la céramique, la fonderie et la luminerie. Donc en gros c'est globalement pour l'industrie.
Ok, j'avais vu qu'utiliser aussi pour les fusées, pour faire les boucliers thermiques en gros des satellites, fusées, etc. Et pour les boucliers thermiques des missiles nucléaires ou classiques.
J'imagine que du coup c'est des revêtements réfractaires.
C'est ça.
Et
ouais.
C'est sur la fiche du BRGM.
La brigade.
C'est le Bureau de Recherche Géologique et Minière en France.
Ok.
Voilà.
Sur le site d'Imeris, on peut lire que tous les ans, le site produit l'équivalent de 25% de la production mondiale avec 67 000 tonnes d'andalousie.
Ok,
67 000 tonnes par an ?
67 000 tonnes par an, ouais.
Ah ouais, putain, c'est énorme.
Et qui sert près de 150 pays dans le monde.
Ok.
Et je crois que ça va avec les chiffres que t'avais vus, en fait, qui montrent un peu l'augmentation de l'usage de l'andalousite, ouais. Où on prévoit d'en utiliser de plus en plus, en fait, comme pas mal de métaux... et minerais aujourd'hui.
C'est ça. Et après, pour donner aussi un ordre... peut-être qu'on pourra le revoir après, ça. Pour donner un ordre d'idée de ce qui est exporté, en fait, par rapport à ce qu'on produit. On a un usage très faible d'andalousite en France, en fait. C'est quelque chose qu'on fait majoritairement pour exporter. Donc c'est pas des choses qui sont valorisées en France. Donc en fait, si on veut aussi jouer un peu le jeu du système capitaliste dans lequel on est, il y a pas, ça produit pas. Enfin,
on n'extrait pas la matière première pour créer de l'emploi en France.
C'est pas quelque chose aussi qui augmente le produit intérieur brut, quoi. Parce que voilà. Enfin après, est-ce qu'on parle du prix du produit tout de suite ou non?
Bah ça, on va l'entendre un petit peu dans les différents.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc cette partie-là, peut-être on pourra la couper là. Ouais. On va faire après. Ok.
Et du coup, peut-être pour revenir un petit peu plus sur le site de Glomel. Donc, il a ouvert la mine a ouvert en 1998. Mais donc, il se vante quand même d'exploiter un schiste qui est âgé de plus de 450 millions d'années. C'est beau.
Mais oui.
Et on extrait tout ça là en quelques dizaines d'années, quoi. Ok. Bah maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de ce que c'est que cette mine et qu'est-ce qu'est l'andalousite surtout, on va écouter donc les deux personnes qui ont accepté de prêter leur voix à cette cause.
Et ça s'étend sur combien d'hectares au total ?
Aujourd'hui, il y a 267 hectares qui ont été artificialisés par Imerys. Ils sont propriétaires de 500 hectares au total. Donc, ils ont une belle réserve foncière. Se poser en anti-extractiviste, c'est vraiment pas simple. C'est un combat très ingrat parce que les gens n'ont pas idée de la pollution que peut laisser sur un territoire une mine. Ils ont même aucune idée de cette activité. Ils savent pas la décrire, ils savent pas de quoi ils retournent. Donc c'est un peu ingrat parce qu'il y a vraiment un temps de pédagogie qui est très important. Mais on voit bien que l'Europe a décidé de relancer l'industrie minière sur son sol. C'est une industrie qui va devenir essentielle pour assurer la transition écologique qui est censée nous permettre de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Donc je pense que c'est une problématique émergente et que de fait elle va maintenant aussi se nourrir plus facilement, quoi, en fait. Ouais.
Ça calme.
Ouais. Calme. C'est hyper intéressant l'idée de la fin qui est transmise sur le fait que la mine, enfin que l'industrie minière peut être portée par le discours de la transition énergétique. Et du coup, même si on n'est pas en fin d'émission, ça m'amène à vous faire, à vous suggérer de regarder des vidéos ou des émissions, enfin voilà, du contenu proposé par Célia Izoar. Qui a écrit un livre sur la mine, sur les mines, et qui s'appelle La ruée minière au XXIe siècle. Et une autre géologue minière qui est hyper intéressante, qui s'appelle Aurore Stéphan, et qui parle bien de cette problématique-là sur la logique extractiviste de la transition énergétique, et qui du coup connaît bien les ressources minières mondiales et qui explique bien que on ne peut pas faire, en fait, qu'on peut pas faire une transition énergétique uniquement basée sur l'électrification de notre consommation énergétique aujourd'hui, parce que ça demande des ressources minières beaucoup trop importantes qui ne sont même pas dans les sols, en fait. Et je trouve que ces deux femmes, leurs deux travaux sont assez complémentaires, parce qu'elle, elle est vraiment sur la partie ressources, etc. Genre, c'est pas possible. Et l'autre, elle explique aussi vraiment en quoi la mine, c'est aussi socialement quelque chose de pas juste, etc. Depuis longtemps, enfin voilà, qu'elle a plein de choses qui ne vont pas.
Il y a Philippe Biwix aussi qui est assez intéressant, qui est sur l'aspect peut-être un peu plus systémique, je sais pas comment dire, ou parce que souvent on nous renvoie aussi comme argument le fait que ça va, en fait on va réussir à faire des équipements de plus en plus performants et du coup il y a des économies à la clé, etc. Sauf que lui justement il parle de l'effet, ce qu'on appelle l'effet rebond, en fait, où une technologie elle va moins consommer, ça ne va pas permettre de faire des économies, mais en fait ça va au contraire amplifier les utilisations, quoi.
Ah oui.
Et à chaque fois c'est ça qu'on voit avec les nouvelles technologies, etc.
La banalisation, l'usage, complètement. Et du coup, exactement. Ce qui manque, c'est de reprendre le côté extraordinaire, afin de reconscientiser le fait qu'on vit aujourd'hui dans un monde avec pas mal de découvertes extraordinaires. Quand on regarde notre monde, je pense notamment au fait qu'on soit tous équipés de voitures individuelles qui nous emmènent un petit peu partout, qu'on soit tous équipés de nos portables qui aujourd'hui nous donnent accès à tout plein d'informations, qui sont quand même connectés à des satellites qui sont tout plein dans le ciel, qu'on est dans l'ère où se développe l'intelligence artificielle, où on est dans un monde où où Mars deviendra peut-être une destination touristique. Enfin,
il y a déjà des croisières dans l'espace. Hein,
mais ouais, il y a un côté un peu surréaliste en fait, et on oublie qu'effectivement on est sur des ressources vraiment épuisables à court terme en fait, et qu'on on est capable, l'humain a une capacité de ouf à créer des choses de dingue, mais qui sont extraordinaires. Mais extraordinaire. Et du coup, on en fait un usage ordinaire. Et on veut tendre vers un usage ordinaire. Et cet usage ordinaire a des effets complètement délétères. Quoi.
Ouais, surtout qu'on pourrait le réserver à des choses importantes. Enfin, par exemple, qu'il y ait des évolutions dans la robotique en chirurgie ou des choses comme ça, c'est génial parce que ça peut soulager des médecins, enfin, et améliorer la qualité des opérations, etc., etc. Mais du coup, c'est plutôt quel usage on en fait. Ouais, justement,
oui, à savoir le limiter à quelque chose d'extraordinaire.
Ouais, c'est ça. Vraiment. Un truc qui a vraiment un impact sur le propre du vivant.
Un truc qu'on sait pas faire autrement, mais là aujourd'hui, on a par exemple des applications. Alors, le nombre de pas qu'on a fait dans la journée, et là tu te dis, mais est-ce qu'on a vraiment, enfin, est-ce que c'est un vrai besoin de savoir combien de pas on a fait dans la journée ?
Là, c'est qu'on marche tellement plus qu'on a besoin de savoir combien de pas on a fait. C'est une carotte pour te dire, pour t'inciter à faire des pas, quoi.
Ouais.
C'est souvent pour ça que c'est fait. Après, il y a le côté gadget, c'est rigolo, mais ouais. Dans l'extrait qu'on a entendu, il y a aussi la notion d'impact en fait qu'on s'émine sur l'environnement, et effectivement qu'on connaît pas suffisamment en fait à l'heure actuelle. Les mines sont quand même principalement à l'extérieur de la France, et nous on profite des bienfaits des métaux qui sont importés sans avoir les impacts négatifs.
Il y a un effet boîte noire. C'est-à-dire qu'on a des choses qui sortent toutes neuves dans les magasins sans avoir. C'est la même chose que nos poubelles. Enfin, tu vois, il y a un effet boîte noire. C'est pris, ça disparaît, mais on le connaît pas. Et puis après, c'est plus notre problème. Bah là, c'est pareil. La fabrication avant, c'est pas notre problème. Mmh. Voilà. J'aime bien l'idée de boîte noire.
Ouais, carrément.
Conceptualisée par Patou. Que je répète beaucoup.
Je vous propose qu'on écoute un extrait sur les impacts de cette mine.
Sur l'extension de la mine ou sur les impacts qu'elle a déjà
aujourd'hui ? Sur les impacts actuels sur la biodiversité.
Ok.
Sur la biodiversité. Cette mine-là, dramatiquement, je dirais, elle est située en tête de deux bassins versants. Les bassins versants de l'Ailé, Isole Laïta, et le bassin versant du Blavet. Et donc, elle est, c'est le centre-Bretagne est communément admis comme étant, décrit comme étant le château d'eau de la Bretagne. Hein.
L'Ailé, je connais moins, mais le Blavet, c'est vrai que ça va hyper loin.
L'Ailé va à l'Orient. quand on sait, j'ai un peu parlé de transition écologique, quand on sait qu'avec les problématiques de dérèglement climatique, l'eau va devenir un bien de plus en plus précieux. Ça pose problème, et ça pose problème parce que c'est en tête de bassin versant, et puis parce que c'est une activité qui consomme énormément d'eau. Là, on est sur des volumes de consommation d'eau qui sont à peu près équivalents à ceux de l'ensemble des habitants de la communauté de communes du Creusbois, c'est-à-dire 23 communes. Elles consomment aussi énormément d'énergie, elles émettent pas mal de gaz à effet de serre.
C'est quoi le problème avec l'eau qui est rejetée ?
Le problème, c'est que en broyant la roche, parce que pour extraire et concentrer l'andalousite qui se trouve à hauteur de 25% de la roche, il faut d'abord la réduire en poudre, et en réduisant cette roche en poudre, et on libère tout un tas de métaux lourds. Donc les eaux qu'utilise Imerys, ou même simplement les eaux d'Exor, des fosses qui sont en activité.
Les eaux d'Exor,
c'est une fosse de actuellement la fosse numéro 3 qui est en cours d'exploitation. Elle fait 40 mètres de profondeur, donc en tête de bassin versant. Donc il est bien évident qu'il faut pomper des sommes considérables d'eau. Pour
des
ne serait-ce
que des nappes souterraines.
Pour la tenir hors d'eau et pour pouvoir continuer à l'exploiter. Ça, c'est ce qu'on appelle les eaux d'Exor. Donc même ces eaux sont déjà anormalement chargées de métaux lourds, manganèse, sulfate, aluminium et pyrite de fer principalement. Et surtout, elles sont très acides. La mine là, ça se caractérise par des terrils. On voit bien ça, des stériles là, des montagnes noires. Ça, c'est la fraction de la roche qui n'a pas été valorisée par la mine. Il faut savoir que l'eau qui tombe dessus, elle ressort forcément à un moment donné, c'est stérile, draine les précipitations. L'eau qui en ressort, elle se ressort chargée de métaux lourds, mais également, elle est très acide. Elle ressort avec un pH de 3, qui est le pH de l'acide éthylique. Donc aujourd'hui, tout va bien, de l'acide acétique. Aujourd'hui, tout va bien, parce que, enfin, tout va bien. Il y a une station de retraitement, donc avec de la chaud, on arrive à remonter son pH. Okay. On arrive aussi à faire tomber certains métaux lourds comme l'alumine par exemple, pas les manganèses hein, et pas les sulfates. Donc l'eau qui est rejetée n'est déjà pas conforme aux normes d'eau brute, mais comment dire, quand on arrivera en fin d'exploitation, qu'est-ce qui va se passer? On nous dit qu'on va imperméabiliser ces verses de stériles, ces terrils, avec une couche d'argile ou d'un matériau équivalent et une couche de terre végétale. Mais qui peut croire que ça va résister à l'épreuve du temps? Alors même que alors que le potentiel acidogène de ces terrils, bah, il va perdurer pendant plusieurs générations. Donc c'est absolument pas raisonnable. D'autre part, bon, alors pour concentrer l'andalousite, on utilise un certain nombre de matériaux chimiques, de techniques mécaniques. Tout ça génère des déchets, des boues. Les boues aujourd'hui, elles restent sur le site. Alors, il mérite à beau jeu de nous dire oui, je retraite l'eau. Mais je veux dire, les boues de l'épuration de cette eau, elles restent sur le site. Elles sont transférées au fond d'une zone, d'une fosse qui n'est plus en activité, qui est la fosse numéro 2, alors qu'elle n'est pas étanchée. Et donc, on court le risque d'une infiltration de polluants dans nos eaux souterraines.
C'est fou. C'est fou quand même, parce que donc, enfin, de ce que je comprends là, c'est qu'il y a des boues qui sont transférées dans une fosse, une ancienne fosse qui a déjà été creusée. Donc j'imagine, là, quand je visualise dans ma tête, je me dis qu'en fait c'est à hauteur même des nappes phréatiques et qu'en fait dès qu'il pleut dedans, possiblement ça peut directement retourner dans les cours d'eau souterrains en fait. Et donc avec un pH de 3, je voulais juste apporter juste une petite précision, c'est que l'eau pure c'est un pH de 7 pour ceux qui... Enfin, moi, j'avais oublié, par exemple.
Il y a une échelle qui va de 1 à 12, je crois, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Donc, en fait, c'est hyper acide. Plus le pH est petit, plus c'est acide. Et plus, et au-delà de 7,
plus c'est basique. Ouais.
Ouais, c'est ça.
Et ouais. Pour rebondir sur les stériles dont tu parles, en gros, il y a eu une autorisation d'empiler donc ces stériles jusqu'à une hauteur de 301 mètres, il me semble, qui est 3 à 4 mètres en dessous du niveau du Ménesdu, qui est le plus haut mont du coin. Et donc, le monsieur qu'on a entendu, donc, qui est un élu de Glomel, parle de la version imérisée du Ménesdu.
Ah ouais, ça dénature complètement un site en fait, ça te crée une montagne artificielle quoi.
C'est ça.
Ouais.
En fait, les stériles c'est genre la roche qui est...
C'est les déchets, tout ce qui n'est pas utilisé.
Et le terril c'est la montagne que ça constitue.
Ouais.
C'est presque terrible.
Les stériles, c'est stérile quoi.
Mais c'est vrai que, et ça pose question le mot stérile en fait, parce que comme on l'a entendu, en fait il reste encore vachement de choses dans ces roches qui sont broyées et qu'on met de côté comme étant stériles.
Stérile, ouais,
en fait c'est stérile financièrement. En fait, eux c'est ce qu'ils disaient du coup.
Ça rentre pas dans la petite caisse quoi.
C'est que là, alors financièrement, que c'est pas suffisamment intéressant de retraiter en fait ces déchets pour en extraire certaines choses, parce que le cours de ces autres personnes, minerais, etc., métaux sont trop bas et du coup ça vaut pas le coup, donc ils les laissent en tas de déchets.
Alors qu'en fait, c'est quand même des métaux lourds qui sont libérés, quoi, qui sont remontés
qui sont
à l'air,
de la terre, ouais.
Qui sont sortis de la terre.
Et donc oui, c'est stérile. Du coup, pour l'instant, ils sont pas. Du coup, il y a pas cette petite couche d'argile dont on nous parle. Donc en fait, ils sont au vent. Et visiblement, le problème, c'est que les poussières sont emmenées par le. Il y a des poussières qui sont emmenées par les vents. Je propose qu'on écoute un extrait là-dessus. J'imagine que le vent peut emmener des poussières.
Ouais,
si
non, effectivement.
Est-ce qu'il y a
les riverains,
des études là-dessus sur l'impact de ces poussières?
Les riverains se plaignent effectivement de. Puis les riverains, même un rayon assez large, hein, se plaignent effectivement de poussière.
Exactement, effectivement, il y a une des grandes problématiques, pardon, c'est la pollution de l'air, quoi. Il y a de la poussière qui tombe dans les récupérateurs de l'eau de pluie, dans des champs agricoles ou pas, peu importe, les gens récupèrent beaucoup de poussière issue de cette exploitation dans leur à côté de leur maison, quoi, et dans leurs légumes, quoi.
Non. Mais du coup, oui, ça montre bien que c'est une activité polluante, quoi. C'est vraiment une activité polluante, et en plus, ça peut aussi, aussi un risque sanitaire avéré. Il y a déjà eu des ruptures de digues qui ont eu lieu. J'en ai une en tête. Il y a une vingtaine d'années pour l'extraction d'ardoise, parce que de visiter ces mines, ça me posait des questions sur l'ardoise, étant donné que je pose de l'ardoise parfois. Il y avait une rupture de digue qui avait fait sur des dizaines de kilomètres un cours d'eau rouge qui avait tué des millions de tonnes de poissons, quoi. Dans tous les sites miniers, y a quand même ce risque de pollution à venir, quoi. Enfin, c'est pas, c'est, c'est pas neutre. J'ai l'impression qu'on crée des bombes, un petit peu.
Ouais.
Donc d'où, enfin du coup, je rebondis sur le fait que d'où l'importance de faire d'un usage extraordinaire, parce que il y a quand même à reconnecter avec ce truc précieux, quoi, de pierre précieuse peut-être, ou de matière précieuse.
Ouais.
Que nous offre Pachamama.
Hey.
Je vous propose une petite pause musicale avec un choix de June, une chanson de Kenny Arcana qui s'appelle Pachamama.
Reçois l'amour de tes enfants qui veulent retrouver ton sein, qui viennent se connecter ensemble pour retrouver le grand un, qui ont conscience que nous sommes tout et qu'à la fois nous ne sommes rien, qu'on te doit tout, chère maman, déjà mère de nos anciens. Pardonne le monde et son ego, bien trop ingrat pour voir le bien. Louons ta gloire et ta splendeur pour préparer le jour prochain. Tu es la reine, la mère chérie, martyrisée par nos engins, aux vibrations bien trop pures pour nos âmes de demi-humains. Reçois l'amour de tes enfants qui ont conscience et intuition, qui malgré les interférences n'ont pas oublié la mission. Chevalier dans la brume qui entend sonner le glas, levant un sabre de feu devant un paradis de glace. Pardonne-nous la division, Diablo a bien fait son travail. On a retrouvé ta chaleur sous leur béton et leur gravat. C'est que le charnier, c'est le changement qui vient frapper à notre porte. Accueillons-le, le cœur léger pour passer à une autre époque. Oh Pachamama, oh Pachamama, oh Pachamama, oh Pachamama.
Toujours sur Radioactive dans l'émission C'est par où demain.
Et on vient d'écouter Kenny Arcana, Pachamama, et je sais pas vous, mais moi ça m'a donné la chair de poule.
Ça me fout toujours les frissons à chaque fois que j'écoute cette chanson. Ouais.
C'est fou, hein. Bah oui.
Mais beaucoup des sons de Kenny Arcana.
C'est vrai. C'est vrai.
Pour revenir du coup sur le sujet de cette charmante mine de Glomel, en fait le contre-argument est un peu comme c'est souvent le cas en fait pour des projets d'une ampleur pareille avec beaucoup d'impact sur le vivant, ça va être un peu ce chantage à l'emploi qu'on nous fait régulièrement où oui mais attendez ça va créer des emplois dans un territoire qui est déjà hyper précaire, fragile. Quoi, fragile exactement. Bon, je vous propose qu'on écoute.
Quel coût a le travail en fait au niveau environnemental, quoi, c'est, enfin, d'être pris dans tous ces engrenages. Le travail, on voit bien que c'est un critère pour le gouvernement aussi, dans les chiffres, dans les tableaux de l'économie telle que ça fonctionne aujourd'hui, c'est quand même important qu'il y ait du plein emploi tout le temps. Mais pourquoi faire en fait si c'est pour détruire plus vite le vivant? Parce que vraiment ça a du sens, quoi.
Exactement, oui. Oui, il y avait plein de questions qui sont liées à cette question-là. C'est, enfin, de toute façon, l'humain, on est un petit peu conditionné quand même, les êtres humains, à une certaine exploitation de nos ressources. Enfin, c'est malheureusement comme ça que ça fonctionne aussi. On a besoin de se nourrir, on a besoin de se loger. Donc, quoi qu'il en soit, on va toujours exploiter, mais par quelle, enfin, de quelle manière? Et là, c'est pas du tout une manière douce. Et ils veulent aller très très vite. Cette société-là, elle va très très vite. Et surtout, pourquoi? Enfin. Clairement, ça se vend pas très cher non plus, ce matériau réfractaire. C'est 600 euros la tonne actuellement sur le marché. Vous pouvez regarder oui, le prix du blé noir, par exemple. Ça va être, je ne sais plus le prix exact, mais c'est aux alentours de 200 euros, voire 300 euros. Je ne sais pas, enfin, là, la cote change régulièrement, mais c'est une ressource renouvelable. Et du coup, on peut récolter et renouveler, alors que là, on tape dans la terre et on prend les ressources et en fait c'est perdu à tout jamais, quoi, sur plusieurs générations. Donc là on a servi nos besoins, faux besoins en plus.
On a déjà aujourd'hui en Bretagne des projets qui capotent ou qui ne sont pas soutenus parce qu'ils sont très consommateurs d'eau. Je pense à l'usine de saumon en pleine terre de Pouilly que tout le monde connaît, mais plus récemment à l'extension de l'usine Bridor à l'Ifray. Et puis on sait qu'il y a, on sait que l'Ille-et-Vilaine manque d'ores et déjà d'eau. Donc des projets comme ceux-là sont de moins en moins acceptables et ils compromettent même notre avenir sur le plan économique. Donc c'est tout le contraire en fait, pour sauver l'emploi, pour sauvegarder l'emploi, pour garder un territoire attractif, parce que c'est de ça aussi dont il est question. Hein. Le Centre-Bretagne a absolument besoin de gens qui viennent s'installer pour maintenir son niveau de population. Et bon, on n'a pas envie d'habiter à l'abri d'un terril. Hein. Donc économiquement, je dirais qu'on aurait tout intérêt à se passer d'Imerys et à trouver d'autres solutions très 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 vite. Ouais.
Effectivement, Glomel, qui était très dynamique à une époque, parce que c'était un petit peu plus peuplé quand même qu'aujourd'hui, ben, on se rend compte que si on retrace l'histoire, qu'il y avait 15 bars, qu'il y avait plusieurs coiffeurs, coiffeuses, qu'il y avait plein de services différents. Aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose, il y a un seul coiffeur, enfin peut-être un bar ou deux, il y a une épicerie citoyenne qui s'est ouverte, mais c'est une toute petite épicerie. Donc on s'était dit que déjà, il faut remettre les commerces au centre de cette commune. Donc bienvenue aux boulangères, bienvenue aux centres sociaux, bienvenue à une conserverie, pourquoi pas, on n'en a pas là dans le coin très proche. Et donc on a pensé également aussi à comment occuper ces terres d'une manière différente. Et bien évidemment, ce qui est ressorti, c'est maraîchage, élevage paysan, artisanat, et aussi oui, pas mal de besoins sociaux dont on peut parler pendant des heures, parce que du coup l'éducation et tout ça, enfin il y a très peu d'enfants aussi, et donc normal qu'il y a moins d'écoles, mais du coup aussi c'est dû à quoi? Telle est la question. Il y a des chiffres intéressants qui sont ressortis il y a quelques jours là dans la presse, c'est qu'il y a une forte demande et possibilité surtout de créer des emplois liés à la transition écologique. Donc là, ce qui a été annoncé par le gouvernement, c'est que c'était possible de créer 150 000 emplois d'ici 2030, si on s'y met vraiment et qu'on a vraiment cette tâche, ce but que d'atteindre l'objectif de non-réchauffement et limiter le réchauffement à 1, bon ça a changé, maintenant c'est plutôt 2 voire 4, mais en tout cas si on veut limiter le changement climatique, on peut créer plein d'emplois, donc il y a plein de possibilités et c'était chouette de les exploiter. On n'a pas terminé encore une fois.
C'est super intéressant de voir ces perspectives justement qui peuvent s'ouvrir. Et enfin, moi ça me fait penser un peu à un coin qui est pas loin, qui est Médionnec, à côté de
carrément
à côté de Glomel. Mais du coup je trouve que ce constat là le fait de dire que ça a été qu'il y a eu une époque où il y avait plein de bars, où il y avait pas mal de commerces, etc., je trouve que ça ramène un peu à l'impact un peu délétère que peut avoir la mine en fait sur des populations. Donc là on voit sur la France, c'est-à-dire que en gros ils arrivent, ils ont beaucoup d'emplois, etc., mais en fait après ça laisse des zones mortes en fait. Enfin c'est des choses qu'on a pu voir dans le Nord, dans plein d'endroits où il y a eu des exploitations minières en France, et c'est pareil à l'étranger. C'est-à-dire qu'on a fait des mines par moment, on est arrivé sur des populations qui étaient complètement autochtones, etc. On leur a donné, on leur a proposé, enfin du coup avec imposé, des salaires, des choses comme ça, bah, dans un sens presque imposé, mais du coup on les a conditionnés entre guillemets à des modes de vie occidentaux, et dès qu'il n'y a plus le besoin, le financement, etc., sur une ressource, et ben on s'en va, et puis on n'assume pas les conséquences, parce qu'en fait on est une entreprise, mais on est une entreprise qui à un moment a voulu prendre la place de l'État, ou enfin voilà, a pris un rôle qui normalement n'est pas censé être pris, quoi, et laisse après des gens dans des états de pauvreté, avec des problèmes sanitaires, avec des problèmes de nutrition notamment, parce que souvent il peut y avoir aussi des cas d'obésité ou de maladies qui n'existaient pas avant sur certaines populations, etc. Et la mine, je trouve que ça peut vachement avoir cet impact là en fait, parce que c'est quelque chose qui est très temporaire, quoi. C'est-à-dire il y a de la ressource, puis après il n'y a plus, donc une fois qu'il n'y a plus, on s'en va, quoi. Et du coup les entreprises s'en vont, les investissements s'en vont, etc., etc. Voilà, c'est à ça que ça me fait penser du coup. Et là je trouve que le parallèle peut se faire un peu aussi, quoi, parce que il y a eu une vie, etc., et puis après la boîte a pu imposer son truc, et maintenant il y a que les gens qui ont envie de bosser dans une mine, donc potentiellement le coin a perdu des habitants.
Mais c'est vrai que tu vois, du coup dans les arguments qu'on peut entendre sur un peu sur le pour cette mine, en gros c'est dans le sens où c'est bien que ce soit en France, parce que du coup c'est des gens qui auront des meilleures conditions de travail quand même, qui travaillent là-bas, même si c'est quand même
voilà, pas chouette. Il y a quand même voilà, un salaire minimum en France, etc. Mais malgré tout, ça reste quand même voilà, destructeur, ça reste de l'artificialisation des sols, en fait. Hein, quand on parle de 260 hectares, c'est quand même énorme. Et même si c'est vrai que les infrastructures, comparées on l'a vu à la construction, ça reste minime, bah, ça reste quand même des surfaces sur lesquelles voilà, qu'on artificialise, qu'on continue d'artificialiser, alors qu'on pourrait faire différemment. Et voilà, cet argument de l'emploi, on se rend compte que c'est totalement
bidon,
et puis plus politique. D'actualité en fait, quoi.
Oui, c'est égoïste parce que comme on disait tout à l'heure, je crois que sur les 60 000 tonnes qui sont produites, il y en a 60 000 tonnes qui sont produites, il y en a genre 52 ou 53 qui sont exportées. Ça veut dire que l'usage en France, il est rien du tout. Donc ça veut dire qu'on exporte. Donc ça veut dire que ces matières-là, elles sont transformées par d'autres gens. Donc les conditions de travail, c'est pas vrai. Enfin, on s'en fout un peu.
Parce que oui, à l'heure de la mondialisation, en fait,
on va produire d'autres trucs avec ces trucs-là et ça va revenir chez nous derrière. Donc en soi, c'est pas pour les conditions de travail que ça peut être fait, quoi. Enfin, c'est un
faux argument.
Un faux argument, exactement, par rapport à ça, je pense.
Mais c'est vrai que moi j'ai adoré en tout cas entendre dans l'interview parler de l'attractivité du territoire, autre que dans la bouche d'élus qui proposent des rocades et des trucs dans le genre. Voilà, parler d'attractivité du territoire en disant qu'en fait on peut créer d'autres types d'emplois et qu'on peut rendre plus désirable un territoire parce que plus de nature, etc. J'ai entendu à la radio, là, il y a eu un sondage sur. Enfin, ils font ça au niveau mondial, quel est le pays avec les habitants le plus heureux, machin, etc. Et apparemment, c'est la Finlande qui ressort. Et dans les arguments de pourquoi est-ce qu'ils sont plus heureux, c'est parce qu'ils ont un accès à des grands espaces naturels très facilement, etc. Et donc, bah oui, on voit bien que ça contribue au bonheur des gens.
Mais oui.
Il y aura des espaces naturels, quoi. Et face à ça, on se demande, mais que fait l'État? On pourrait se dire que l'État, justement, est là pour protéger le bien commun, parce qu'on l'aura compris, en fait, finalement, c'est plutôt délétère pour le bien commun. Et encore une fois, j'ai l'impression qu'on en arrive souvent à ces conclusions-là. En gros, c'est pour enrichir une minorité, et ben, on défonce le vivant. Et donc, l'État, qui devrait être le garant du bien commun, donc voilà, quels sont les rapports qu'ont donc, ces associations avec l'État?
Parce que l'IMIRIS, c'est quand même une fabrique du silence, hein, pour reprendre le bon mot d'Inès Leroux à propos des algues vertes. Ces deux sujets n'ont rien à voir, mais il y a une fabrique du silence dans les deux cas. Ouais. Et l'IMIRIS, c'est très très bien fabriqué, le silence.
Moi, j'avoue que là, j'étais un peu en train de faire le lien, mais plus par rapport aux enquêtes publiques, etc. Où en fait, du coup, moi, je connais un peu plus les ICPE, enfin les demandes d'exploitation, etc. Et où en fait, souvent, les gens sont pas au courant. Alors là, peut-être pour la mine, c'est différent parce que ça emploie pas mal de personnes de la commune. Ouais, mais ouais, je vois quand il y a une extension d'élevage, et ben, en fait, la plupart des gens de la ville ne savent même pas qu'il y a cette demande qui est en cours.
C'était encore le cas lors des derniers conseils municipaux de mercredi soir. Là, on a vu passer un truc dans le genre qui était resté complètement.
C'est ça. Alors, complètement c'est bien de faire des enquêtes publiques, mais ces gens sont pas au courant.
Alors, les enquêtes publiques, en plus, si on voulait qu'on parle des enquêtes publiques, elles se terminent, je crois que c'est dans 96,7% des cas par des avis favorables du commissaire enquêteur. Et même lorsque l'avis du commissaire enquêteur est défavorable, il peut arriver que le préfet passe outre et se fasse son opinion par lui-même. Donc, très clairement, je crois que les associations dont j'ai parlé n'attendait strictement rien. Oui, alors je disais tout à l'heure que l'eau, sa disponibilité serait demain un des nerfs de la guerre économique, mais ça va être également le cas de la disponibilité du foncier, avec les règles d'artificialisation des sols qui vont se durcir, les SCOT qui sont en cours d'adoption et les PLU qui vont découler. Donc bien sûr, 267 hectares qui sont artificialisés et bientôt plus, c'est pas grand chose, mais c'est beaucoup par rapport à la marge de manœuvre qui nous reste. Et là aussi, on a quelque chose qui conditionne notre développement économique et notre horizon économique. Ouais.
Mais oui.
Donc on l'aura compris, l'État n'est pas vraiment de notre côté.
Non. Oh bah c'est bizarre.
C'est étonnant.
En fait, oui, heureusement qu'il y a de la désobéissance civile, c'est essentiel, quoi. C'est essentiel pour notre survie. En fait,
c'est ça. Enfin, en tout cas, il y a un vrai déni de démocratie, quoi, dans le sens où après, si collectivement on a envie de foncer droit dans le mur et de creuser la terre, à la limite, pourquoi pas. Mais en fait, c'est qu'on nous demande même pas notre avis
sait pas.
Ouais, c'est ça. Parce qu'on nous demande notre avis. Si jamais on est au courant qu'on nous demande notre avis, et en plus même quand on le donne, en fait, il est pas écouté c'est le préfet qui finit par prendre la décision qu'il
tout
a envie.
Seul, quoi.
Tout seul.
Oui, c'est ça.
Donc ça pose vraiment question sur le fonctionnement de notre État.
Et de notre démocratie.
Et de notre démocratie.
Du coup, juste, est-ce qu'on peut rappeler le nom des collectifs
qui, enfin voilà, qui nous ont prêté leur foi.
Et donc oui, c'est des personnes du collectif Réfractaire donc qui ont bien voulu prêter leur voix, dont un monsieur qui fait partie de, qui est élu à la mairie de Glomel, et une habitante de la du territoire autour de Glomel.
Est-ce qu'on a des, comment est-ce qu'on peut contacter le collectif si jamais on veut des informations?
Très bonne question, June. On peut les contacter à l'adresse mail refractaire@proton.me. Et donc Refractaire, c'est R-T-E-2-R-E-S. Et ils ont aussi d'internet, ils ont aussi un site internet qui est www.refractaire.org. Et donc ils ont fait pas mal de documentation déjà sur les impacts de la mine. Donc n'hésitez pas à rejoindre la lutte, à les soutenir. Et ouais, merci à eux de l'énergie qu'ils mettent dedans.
Et Brioche, toi qui es avec nous aujourd'hui, hein, est-ce que tu as, est-ce que tu, qu'est-ce que t'en penses de l'extraction de minerais? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter?
Je crois que vous avez à peu près tout dit.
Comment tu te sens à la fin de cette émission?
Retourner.
Ce qu'on a pu entendre dans les différentes prises de parole, c'est vraiment la question aussi de l'usage. Et d'ailleurs, je crois que Brioche, il a une anecdote assez rigolote à nous raconter. Il nous en parlait tout à l'heure. Si tu veux nous raconter, apparemment, tu as eu un cadeau.
Oui, pour mon anniversaire. J'ai une montre connectée. Et tout à l'heure, on parlait du extraordinaire. Ouais. Et du coup, c'était, on était en train de se brosser les dents et ma mère, elle dit... Non mais ta montre, en fait c'est extraordinaire toutes les données qu'on a pu mettre dedans, mais c'est devenu quelque chose d'ordinaire quoi, qu'on peut utiliser quand on veut.
C'est un objet du quotidien quoi.
En gros oui.
Et c'est vrai, pour toi ça te paraît banal Bah
oui.
Les montres connectées, tout ça, ça...
Oui, ouais. Bah, les téléphones aussi quoi, quasiment tout le monde en a.
Est-ce que ça t'a fait réfléchir la réflexion de ta maman, ce côté c'est extraordinaire et on l'utilise ordinairement?
Bah non, j'ai pas réfléchi.
Non.
Ah, c'est honnête.
En tout cas, les mamans, faut pas désespérer, il faut planter des petites graines.
Et après, faut pas oublier d'arroser quoi.
Et ben merci pour ce partage.
Merci Brioche.
Oh, de rien.
Oui, c'est vrai.
Et merci.
Merci de nous avoir écoutés.
M3.
Et à la prochaine dans un épisode de C'est par où demain.
Et ouais, toujours.
Toujours.
À bientôt.
À bientôt. À bientôt.
C'est par où demain, c'est par où demain, c'est par où demain.
C'est par où demain.
Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit mollo sur le destroy.
C'est par où demain.
L'émission qui fait du bien. Surtout aux éco-anxieux.